France Musique. Philippe Venturini, sous la couverture, France Musique.
Bonjour, les photos les plus célèbres d'Otto Klemperer présentent un vieux monsieur à l'air peu amène, le regard dur derrière ses lunettes. Ses enregistrements les plus fameux, réalisés dans les années 1960, se distinguent par leur tempo lent et leur allure massive, voire monumentale. Bref, on aura tendance à croire que Klemperer a toujours été un vieux chef d'orchestre. Il a pourtant été un jeune musicien qui se fit très tôt remarquer au point de devenir une des figures emblématiques de la modernité dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres. C'est le jeune Klemperer qu'Eva Weisweiler nous invite à rencontrer dans un livre qui, non seulement, retrace la biographie du chef d'orchestre, mais s'attache aussi à décrire le contexte historique, social et musical d'un monde alors en pleine mutation. Otto Klemperer, les années allemandes, par Eva Weisweiler, aux éditions Notes de nuit, en compagnie de Georges Deisel. L'orchestre de la Staatskapelle de Berlin et Otto Klemperer interprétaient le début de cette ouverture coriolante de Beethoven. Évidemment, ça gratouille un peu, mais c'est vieux. C'est un enregistrement de 1927 effectué à Berlin. Bonjour, Georges Deisel. Vous n'êtes pas donc l'auteur, mais l'éditeur, enfin le directeur de la collection La beauté du geste aux éditions Notes de nuit, dans laquelle paraît donc cette biographie Otto Klemperer, les années allemandes de Eva Weisweiler. Donc c'est la traduction d'un ouvrage allemand. Peut-être deux, trois mots sur l'auteur. C'est une musicologue de formation, c'est ça?
Oui, elle a écrit beaucoup d'ouvrages sur des femmes compositeurs, sur notamment Fanny Mendelssohn, sur Clara Schumann, également Friedlind Wagner, l'enfant terrible de la famille, et puis également sur la famille Freud. C'est quelqu'un d'assez éclectique, et puis qui s'est intéressé aussi aux années sombres de son pays. Elle a commenté un listing assez horrible qui avait été fait. C'était tout un annuaire des musiciens juifs qui a servi à essayer de les dépister pour les éliminer. Et Klemperer est un cas un petit peu typique, voire intéressant, de cette communauté musicale artistique qui se manifestait dans le début du siècle et puis qui a été fauchée par le nazisme. Et elle s'est intéressée donc particulièrement à Klemperer, parce qu'il était représentatif de toute une esthétique qui a été fauchée, donc à cette époque-là dont on n'a plus de représentants.
Et effectivement, en plus, c'est la partie la moins connue, la moins documentée, j'ai envie de dire, de la vie d'Otto Klemperer, né, rappelons-le, en 1885. On connaît plutôt sa carrière discographique des 20 dernières années de son existence, hein, puisqu'il est mort en 1973 à Zurich, les 20 dernières années durant lesquelles un contrat le liait à la maison EMI et sur lequel sa grande discographie a été établie. Là, nous allons plutôt explorer sa vie avant la Seconde Guerre mondiale. Naissance en 1885, je l'ai dit. Il grandit à Hambourg et puis il fait ses études à Francfort et puis à Berlin, au conservatoire, où il rencontre Pfistner. Et puis, en 1905, rencontre de Mahler. C'est un des grands disciples de Mahler. On pense toujours à Bruno Walter, mais il ne faut pas oublier Otto Klemperer.
C'est une rencontre très importante pour lui. Et en tout cas, on a des témoignages de sa manière de diriger Mahler. Et pour moi, qui sont absolument capitaux. Parce qu'il donne un reflet aussi de première main de ce que pouvait être le chef d'orchestre Gustav Mahler. Qui est un peu différent de celui de Walter, voire opposé. Et c'est important d'avoir son esthétique par rapport à celle qu'était celle de Walter.
On a l'impression, justement, à lire le livre d'Eva Weisweiler, que Klemperer s'identifiait, en tout cas même jusque dans sa façon de diriger, à, de façon inconsciente ou pas, je ne sais pas, mais à Mahler. Il y avait en tout cas une exigence qui l'associait vraiment à son mentor.
Oui, tous ceux qui ont approché Mahler, de près ou de loin, ont été extrêmement impressionnés par le compositeur, mais aussi, surtout, par le chef d'orchestre. C'était un homme qui projetait une énergie et qui était d'une extrême précision, d'une extrême exigence. Et il était impressionnant pour le jeune homme que c'était. Je crois que Klemperer lui a apporté un jour, il voulait absolument le rencontrer personnellement, il lui a apporté une réduction de sa symphonie résurrection. Pour piano, et il a eu un entretien avec Mahler qui lui a permis de diriger depuis les coulisses la petite fanfare qu'on a dans la deuxième symphonie, dans le quatrième mouvement.
Il a demandé d'ailleurs après à Mahler une recommandation pour lui permettre de trouver un poste de chef d'orchestre, parce que
oui, il lui a toujours été reconnaissant de ça, et il dit que ça lui a ouvert les portes du métier.
Thank you. Le début du scherzo de la deuxième symphonie de Gustav Mahler, l'orchestre symphonique de Vienne dirigé par Otto Klemperer. C'est un enregistrement de 1951. George Zeisel, justement, vous évoquiez ce scherzo de la deuxième de Mahler. Je crois que c'est même Klemperer l'a joué, avait fait la réduction de toute la symphonie, a joué à Mahler au piano, donc ce scherzo de cette deuxième symphonie. Alors, là, on a dépassé un petit peu évidemment l'avant-guerre, mais qu'est-ce que cet enregistrement nous dit sur le style de Klemperer, de même que l'ouverture de Coriolan, qui était antérieure à 1927, qui ne ressemble pas du tout, en tout cas, à l'idée qu'on a du Klemperer marmoréen, massif, monumental.
Oui, alors le tempo, c'est une chose, ça le rend un peu caricatural, parce qu'il a des tempos qui sont effectivement liés. Vous savez qu'il a eu plusieurs accidents.
On en reparlera tout à l'heure.
Terribles, oui, oui. Et c'est un homme qui est quasiment miraculé, qui, après
exactement,
la guerre,
ouais,
continue de diriger. Donc, si on met de côté la question des tempos, il y a cette attention à la polyphonie, cette manière de mettre en avant les cuivres et les vents sans qu'ils soient agressifs, et cette espèce de capacité de rendre une partition de manière un peu clinique, comme
très lisible, oui,
très lisible,
oui, oui, bien sûr.
C'est tout à fait caractéristique du bonhomme. Moi, je raccroche ça à un courant esthétique qui s'appelait la Neue Sachlichkeit, ou la nouvelle objectivité,
ouais,
ou bien la continuité d'un mouvement expressionniste. Kirchner l'inspirait, du reste.
Et alors, justement, est-ce qu'on peut dire, George Zeisel, que Klemperer était tout à fait l'enfant de son époque, l'enfant de l'Allemagne des années 20, et qui voulait vraiment tourner le dos au post-romantisme d'un Walter, par exemple d'un Bruno Walter?
Walter était un homme d'une autre génération. Il était né en 1876. Il y avait quelque chose qui appartenait vraiment à ce monde d'hier.
Oui.
Il aimait bien aussi Stefan Zweig. C'était quelque chose de... Bruno Walter était moins rugueux. Hein. C'était un personnage beaucoup plus aimable, beaucoup,
oui,
plus consensuel.
Oui, réputation que n'avait pas Klemperer. Il passait vraiment pour... d'une part, il faut rappeler que c'était quelqu'un de très grand, il faisait quasiment 2 mètres, qui était quand même assez remarquable pour l'époque. Quand on le voit à côté de Toscanini, Erich Kleiber, Bruno Walter, qui était...
Oui, il domine la situation.
De très loin. Mais surtout, il était connu pour avoir aussi des colères absolument redoutables.
C'était un vrai caractériel. Les gens ne comprenaient pas autour de lui parce qu'il pouvait être charmant. Et puis, d'un seul coup, des périodes de 8 jours comme ça, il cassait tout, il se comportait mal. Il était incontrôlable et lui-même se souvenait plus de,
ouais,
ce qu'il avait fait. Alors, plus tard, on l'a diagnostiqué bipolaire. Avant, c'était seulement caractériel, maintenant c'est bipolaire. Bon, voilà, c'est une maladie neurologique qui se soigne, qu'on soignait peut-être pas de la même manière à cette époque-là, mais voilà.
Et qui entraînait des grandes périodes de dépression.
De dépression, et à l'inverse de périodes maniaques,
de
surexcitation,
ouais, ouais,
euphorique,
ouais,
oui.
Et George Zeisel, on oublie peut-être que, parce qu'on associe évidemment Klemperer au grand répertoire allemand, mais on oublie qu'il a commencé en dirigeant du Offenbach, alors qu'il était encore tout jeune, et en suivant le parcours de tous les chefs de l'époque, il a commencé à apprendre le métier dans des petits théâtres, en dirigeant tout, même des opérettes.
Tous les chefs d'orchestre qui commencent dans la fosse commencent par des opérettes, commencent par le petit répertoire, et puis ils se font leur expérience avec des petits orchestres et des petits opéras, c'est normal.
Thank you.
Début de l'ouverture de La Belle Hélène de Jacques Offenbach, la Staatskapelle de Berlin, Otto Klemperer. C'était le 22 mai 1929, très exactement, à Berlin, George Zeisel. La fin des années 20 à Berlin, une époque très importante pour l'histoire de la musique, pour la vie musicale berlinoise, bien sûr, mais aussi pour celle d'Otto Klemperer, puisque c'est l'époque entre 1927 et 1931, durant laquelle il dirige ce qu'on appelle le Kroll Oper, l'opéra de Kroll. Qu'est-ce que c'est alors que cet opéra? Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce que Klemperer y a fait?
À Berlin, il y avait quatre opéras. Il y avait le Staatsoper Unter dem Linden, il y avait un autre Staatsoper, et puis le Kroll Oper, c'était un opéra un peu expérimental, qui s'est manifesté à partir de 1927, où on produisait des œuvres beaucoup plus contemporaines que celles du répertoire, où on prenait des risques, aussi dans le domaine des décors et de la mise en scène. C'était un lieu vraiment d'innovation et d'avant-garde. Et
il faut rappeler qu'à l'époque, Berlin avait quand même, il y avait Furtwängler à la Philharmonie, donc Erich Kleiber à l'opéra Unter den Linden, et Bruno Walter l'opéra de Charlottenburg. C'était une période bénie pour la musique à Berlin.
Voilà, et donc l'empereur au Kroll Oper. C'était tous des géants qui donnaient à la musique une impulsion. Il y avait une effervescence extraordinaire dans cette ville.
Bien sûr. Et alors Klemperer, donc dans ces années-là, au Kroll Oper, vous nous avez dit c'est l'avant-garde. Donc quel était le répertoire? Quels étaient les compositeurs qui étaient joués à cette époque?
Ils prenaient des grands risques. Il y avait des musiciens comme Zemlinsky, il y avait Stravinsky, et il y avait Schoenberg. Il y avait Janáček aussi, et puis les classiques, les Wagner étaient aussi produits dans des mises en scène un peu innovantes et avec moins d'argent que les autres d'ailleurs. Et puis en effet, le style du chef d'orchestre, c'était quelque chose d'assez passionnant pour lui, pour tout le monde, parce que il avait le sentiment de défendre la musique de son temps, et les compositeurs lui en ont été assez grés du reste.
J'imagine. Et alors, est-ce que l'on sait comment ces spectacles, donc on a bien compris, innovants, modernes, d'avant-garde, étaient reçus et par le public et par la presse? Ça devait diviser l'opinion, je suppose.
Ceux qui allaient voir les maîtres chanteurs dans la grande tradition n'allaient pas voir Erwartung, et puis inversement. Les critiques qui fréquentaient ces lieux, c'était des critiques d'avant-garde, et puis ils y allaient comme ceux qui aujourd'hui vont au Festival d'automne ou bien au Festival Présence, et ils soutenaient cette musique pour qui c'était pas facile de s'imposer.
Bien sûr, alors, vie musicale effervescente dans ce Berlin de la fin des années 20, début des années 30, mais aussi période extrêmement difficile, douloureuse, terrible pour l'Allemagne.
C'était la sortie de l'inflation, il y avait le chômage, il y a eu la crise de 29, et puis avec ça, il y a tous les populismes qui se sont déclenchés. Il y a eu la montée d'Adolf Hitler et des nazis qui a mené à son élection démocratique, comme celle de Trump.
En 33, exactement. Oui. Comment se situait Otto Klemperer vis-à-vis donc de ce pouvoir nazi? Il faut rappeler qu'il était juif, mais qu'il s'est converti au catholicisme.
Il s'est converti par conviction au catholicisme à Cologne en 1917. Je crois qu'il a été impressionné par la cathédrale. C'était un homme non pas révolté, mais en effet en opposition, qui se mettait volontiers en opposition. Alors décrire ses convictions politiques, c'est pas facile. Il passait pour un bolchevique. Il passait quand même pour un juif, même s'il se sentait pas juif. Et puis, comme c'est pas lui qui disait qu'il était juif, il a tout de suite compris en 1933 qu'il pouvait pas rester très très longtemps. Et comme il y a eu pendant une représentation de Tannhauser des manifestations d'hostilité, il a compris que ça n'irait pas très 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 loin pour lui. Et puis il est parti à Zurich très vite.
Un extrait de l'opéra de Katsu de Kurt Weill, le Staatskapelle de Berlin, Otto Klemperer. C'était dans 1931 à Berlin, donc en pleine période du Kroll Oper encore. George Zeisel, alors à nouveau, une image totalement différente, aussi bien en termes de style d'interprétation que de répertoire. L'image classique que l'on a du Beethoven, du Brahms marmoréen, du vieux Klemperer.
Oui, c'est l'occasion donc de ce livre et puis aussi les enregistrements que vous diffusez, c'est l'occasion de rectifier un tout petit peu l'image qu'on a du vieux Klemperer avec ce côté massif qu'on a dans le grand répertoire des symphonies de Beethoven, des concertos de Beethoven et des symphonies de Brahms qu'il a enregistrées pour Walter Legg avec le Philharmonia
de Londres. Ouais.
C'est une image qui correspond pas à la réalité complète du bonhomme.
Vous avez parlé justement, excusez-moi de vous interrompre, Georges Zeisel, de sa santé qui avait été déficiente. Est-ce que peut-être ça aussi, ça a joué dans sa carrière? On a parlé de son caractère qui était difficile, mais aussi les plusieurs accidents, les tombées, les interventions chirurgicales, tumeurs au cerveau.
C'est clair, il est parti aux États-Unis, il a eu des ennuis parce que lors d'un de ses épisodes maniaques, il a dû se faire hospitaliser. Après la guerre, il y a une opération d'une tumeur au cerveau. Ensuite, en 1954, je crois, il s'est brûlé dans son lit parce qu'il fumait une cigarette, il s'est endormi.
Il s'est endormi.
Il a voulu et il a voulu l'éteindre avec une bouteille d'alcool. C'est un miraculé. Et il faut rendre hommage à Walter Legg quand même, qui est venu là et qui lui a dit « je te donne le
moyen ». Oui, c'est ça. Oui, il était à vie, chef
voilà.
À vie. Ouais.
Et qui lui a permis de diriger jusqu'à la dernière minute. Alors il y a quand même des choses magnifiques qui ont été faites avec le New Philharmonia. Moi je pense aux Mahler qui sont des témoignages extraordinaires,
sur
notamment
la
7e aussi. Ouais.
Le chant de la Terre aussi.
Et le chant de la Terre, voilà. Et puis les mélodies avec Christa Ludwig. C'est le grand patrimoine ça. Et puis c'est ce qui nous reste un peu du Klemperer de cette époque-là. Alors il se justifiait lui-même en disant, mais quand on lui disait, vous étiez un grand défenseur de la musique de votre temps, pourquoi aujourd'hui vous êtes uniquement dans les classiques? Il disait, mais je fais ce qu'on me demande, et puis on ne peut pas se retrouver dans des salles qui sont vides dans les années 60, et on ne peut plus prendre ce type de risque aujourd'hui. Néanmoins, bon, on a quelques symphonies de Mahler qui ont été sauvées, et ça c'est important.
Très bien, mais merci beaucoup Georges Zeisel. Je rappelle le titre de ce livre, Otto Klemperer, les années allemandes, écrit par Eva Weisweiler, publié par les éditions Notes de Nuit, et l'éditrice est Fabienne Gastelier, c'est ça?
Absolument, et il faut lui rendre hommage parce que c'est extrêmement courageux aujourd'hui de consacrer une collection aux grands chefs d'orchestre du passé qui ont connu ces années troubles, et c'est elle qui a pris les décisions de mettre en avant Otto Klemperer,
Toscanini aussi,
et puis bientôt Fritz Busch. Dans 2 mois, il y a 2 volumes Fritz Busch. Un, c'est son autobiographie qui avait jamais été traduite en français, et puis la chronologie biographique de 33 à 51 qu'elle a elle-même écrit, et ce sont 2 livres passionnants qui seront à découvrir
dans
quelques mois. Ça nous
donnera l'occasion de vous revoir, Georges Zeisel. Merci, et merci à Pierre Monteil, à Géraldine Prutner et à Annie Comier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et vous souhaite une bonne journée à l'écoute de France Musique.